Je vous accueille pour cette seconde saison d'un cycle qu'on a monté en collaboration avec la librairie Mola, qui s'appelle Université. Alors, il y en a certains qui étaient là l'an dernier, d'autres qui découvrent. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir tous. Je vais dire juste un petit mot du projet et ensuite, hein, on passera à la question de cette année. Et ensuite, je laisserai la place, bien sûr, aux invités. Sur le projet lui-même, l'idée a été donc d'essayer de désenclaver, il faut bien le dire comme ça, les recherches des chercheurs, puisqu'il s'agit d'un collectif fait d'universitaires. On est en fait 5 universitaires de sciences humaines qui sommes de l'Université Bordeaux-Montaigne ou de Limoges qui avons monté ce collectif. Et donc l'idée de désenclaver un peu la recherche et d'aller dans la cité d'où le mot valise université qui s'écrit avec un S et un C majuscule pour montrer justement les échanges qu'on souhaiterait plus importants entre la cité, vous, le grand public ou les étudiants qui sont très nombreux ce soir et que je remercie. Et quand je dis échange, il ne s'agit pas de quelque chose, ce n'est pas en termes de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que les chercheurs viennent vous apporter une sorte de savoir qu'ils auraient. Il s'agit vraiment, et je vais en venir justement au type de questions qui sont traitées, à un échange possible, d'où le concept qui est aussi celui de laisser du temps au débat, ce qui très sincèrement n'a pas été tout à fait performant l'an dernier, et on a essayé d'alléger un peu justement les intervenants pour laisser plus de place, parce qu'on n'a rien à faire, les chercheurs, on est un peu bavards, hein, et donc on déborde le temps. Bien. L'an dernier, la question portait sur humanisme, transhumanisme, post-humanisme, ce qui correspondait assez bien à notre volonté, qui va être la même dans le cycle de cette année, de privilégier des questions transversales, des questions qui concernent aussi bien les sciences humaines que les sciences ou les arts, mais surtout qui fassent se dialoguer sciences dites dures, qui n'ont rien de dur, mais enfin, tout le monde voit de quoi il s'agit, et sciences humaines, qui seraient donc molles, et puis sur des questions qui sont aussi, qui nécessitent un apport historique, donc transséculaire, et sur des questions d'actualité, qui touchent des questions d'éthique, notamment, et de notre actualité. L'an dernier, juste deux idées qui ont émergé à la convergence des 3 réunions, puisqu'il s'agit à chaque fois de 3 rencontres. On a pu retenir, un, l'extrême difficulté, voire l'impossibilité, voire l'inefficacité de poser la question de l'humain en termes de définition. Il n'y a pas de définition possible essentialiste de l'humain, de dire l'humain est ceci ou est cela. Au fil des séances, on s'est dit que c'était une question qui était mal posée, qui ne pouvait pas se poser en ces termes-là. Le deuxième point, puisqu'on a eu pas mal de débats autour du transhumanisme dans lequel on baigne, était que les neurologues et les philosophes notamment qui étaient là ont essayé de montrer à quel point il y avait une grande part de fantasme, pas uniquement, mais une grande part de fantasme dans les prédictions transhumanistes qui, pour l'instant, en tous les cas, en l'état de la science, sont très très loin d'atteindre ce genre d'objectif. Je referme la parenthèse sur l'an dernier. Si j'en parle, c'est aussi parce que la question de cette année, qu'on appelle d'une phrase assez ambiguë et fourre-tout la question animale, est celle des frontières entre l'humain et l'animal, et vous voyez bien, et dans le prolongement de ce qu'on a pu voir l'an dernier, c'est-à-dire des frontières entre l'humain et le non-humain, l'objet, la machine, etc. Donc il s'agit d'une sorte de prolongement, d'interrogation qui tourne autour de qu'est-ce que l'humain, avec cette idée qu'il est fort difficile de la définir. Alors, pour la question de cette année, il est évidemment totalement impossible même d'amorcer toutes les questions que posent les rapports entre animaux et humains. Je dirais juste deux choses. Il y a deux manières où on a essayé d'amorcer les questionnements. La première question qui se pose est évidemment celle des frontières, des différences et des ressemblances entre l'humain et l'animal, qui pose la question de la nature humaine ou de la nature animale, avec deux tendances, deux attitudes, deux convictions aussi une continuité entre l'animal et l'homme, ce qu'on appelle le continuisme, ou avec une position zoomorphique, hein, qui est assez présente depuis deux décennies, sans doute en réaction contre l'autre attitude, qui serait une attitude anthropomorphique, hein, décidant que l'homme l'emporte sur l'animal, ou qu'il y a une rupture totale entre l'homme et l'animal. Donc on va tourner autour de ces questions sans cesse. Le deuxième pan, c'est celui de la coexistence entre l'humain et l'animal. Et justement, on va essayer de voir que cette coexistence, bien sûr, est complexe, compliquée, pose des problèmes d'éthique, hein, qui actuellement sont notamment défendus avec l'idée de droit des animaux par une association que vous devez connaître, la L214, qui effectivement défend ce point de vue, justement pour aller contre ce qui a pu être fait pendant très longtemps, qui continue. Donc, je dis, ces comportements ne sont ni stables dans l'histoire, et c'est sans doute par là qu'on va commencer aujourd'hui à voir quelle est la place de l'homme et de l'animal respectivement dans l'histoire. Elles ne sont pas du tout stables non plus suivant les espèces animales. Évidemment, les problèmes ne se posent pas de la même façon quand on parle des grands singes, dans la primatologie par exemple, ou qu'on parle des animaux domestiques ou des animaux de nourriture, de la chasse, etc., ou de l'huître. Les choses ne se posent pas du tout de la même façon. Donc évidemment, en découle toute cette question aussi d'éthique, des droits, etc., qui n'est pas la question centrale par laquelle on va aborder les questions, mais qui forcément en découle. Alors, un dernier mot sur l'organisation des trois rencontres. Alors, ceux qui sont venus, avaient l'intention de venir il y a un mois, pour ce qui devait être la première rencontre, donc avec Alain Prochian, qui est grand biologiste, généticien et administrateur du Collège de France, ont été déçus puisque la neige parisienne a fait qu'il a été bloqué et n'a pu venir. Mais on a réussi à replacer l'intervention qui devait être première parce qu'elle posait en termes scientifiques, génétiques, la question de la différence ou non. Mais bon, elle viendra en deuxième, ce n'est pas très important. Vous avez un petit flyer à l'entrée, si vous n'avez pas les dates. De toute façon, ici, vous avez l'affiche qui vous redonne les dates. Donc, il viendra le 21 mars. On a choisi le jour du printemps en se disant que la neige ne devrait pas être au rendez-vous et que ça devrait être possible. Mais donc, on va commencer par le format de la table ronde. C'est comme l'an dernier, il y a une idée de format complémentaire pour voir les choses. Donc, la table ronde, c'est des chercheurs de disciplines différentes qui vont chacun, depuis leur discipline, essayer d'échanger avec vous autour de cette question. La deuxième fois, donc, ce sera plutôt le point de vue du scientifique. Et puis, la dernière séance est une séance de lecture de textes littéraires. Donc ici, qui met en scène ou qui parle de notre relation à l'animal. Et donc, c'est lu à la fois par une comédienne et commenté de façon légère et non universitaire, ou pas trop, le moins possible, par des universitaires qui connaissent évidemment très bien ces textes. Ici, en l'occurrence, ce ne seront que des textes contemporains. Voilà, je laisse la place après avoir beaucoup parlé à la table ronde de ce soir et présente juste Chloé Damaret qui fait la médiatrice parce que comme elle va présenter les chercheurs et qu'elle ne va pas se présenter elle-même. Donc Chloé Damaret est étudiante en master deuxième année de communication, médiation des sciences, dirige aussi une association, un site qui s'appelle Dealer de Sciences, était déjà là l'an dernier, et continue, et je leur laisse la parole. Merci à vous.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ouvrir cette deuxième édition d'Université sur un thème un peu plus sauvage que l'an passé, mais tout aussi passionnant, les animaux et nous. Avant de débuter, je souhaiterais remercier la librairie Mola qui nous accueille ce soir, ainsi qu'Aurélia Gaillard du collectif Université. Merci également aux invités à mes côtés, ainsi qu'à vous pour avoir répondu présent ce soir. Le rapport entre les sciences aux animaux est une constante inaliénable, Que ce soit sous le microscope des chercheurs ou sous la loupe de l'éthique, les animaux fascinent et les animaux questionnent. Les relations que nous avons tissées avec eux ont énormément évolué au cours des siècles, mais elles demeurent toujours au centre de notre attention. Preuve de cette préoccupation constante, depuis 2015, les animaux sont juridiquement reconnus comme des êtres sensibles dans le code civil. Ce renouveau du côté des lois n'est que symptomatique d'un grand intérêt pluridisciplinaire pour ce sujet. La biologie, les sciences humaines et sociales, la génétique ou encore l'anthropologie s'emparent des animaux comme sujet d'étude. Preuve que ce sujet touche l'opinion publique, ces recherches croisent souvent le chemin de combats militants en faveur de la cause animale. Attention cependant, nous veillerons ce soir à ne pas trop nous égarer dans un questionnement éthique, car ce sujet complexe nécessiterait à lui tout seul un nouveau cycle de conférences. Il est parfois difficile de véritablement positionner le curseur qui temporise et segmente notre existence et celle des autres espèces. Et pour cause, les humains ont toujours été au contact des animaux. Tantôt vénérés, tantôt craints, ils rythment depuis des siècles nos représentations sociales et culturelles. Déjà au temps préhistorique, c'était eux que les artistes plaçaient au cœur de l'art pariétal et rupestre. Mais pourquoi ces êtres vivants nous fascinent autant ? Quel rôle ont joué les animaux dans nos propres représentations ? Qui des hommes ou des animaux sont les plus altruistes ? Qu'en est-il de notre coexistence ? Pour nous aider à sortir de cette jungle de questionnements, je vais laisser la parole à mes collègues ici présents. Ils nous feront voyager dans le temps en nous exposant des clés de réflexion sur ce qu'a été l'homme pour l'animal et l'animal pour l'homme au cours des siècles. Ceci nous amènera dans un second temps à dialoguer avec vous en répondant à vos remarques et interrogations. À mes côtés, Violaine Giacomotto, maître de conférences en lettres à l'Université Bordeaux-Montaigne, Pascal Duris, professeur des universités en histoire des sciences à l'Université de Bordeaux, et Stéphane Cormier, professeur à l'Université de Bordeaux, philosophe et anthropologue. Stéphane, vous êtes particulièrement intéressé à la dimension anthropologique de ce questionnement, ainsi qu'au rapport altruiste souvent attribué à l'animal. Donc pour rappel, la notion d'altérité, elle est en opposition avec celle de l'identité, puisqu'elle fait référence à tout ce qui est à l'extérieur de l'être et tout ce qui n'est pas nous. Mais alors, qu'en est-il au juste de l'altérité animale ?
Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est une question ô combien riche et complexe à présenter en quelques minutes. Je dirais pour l'essentiel que cette question de l'altérité animale, du point de vue de l'anthropologie, elle peut paraître paradoxale, hein, qu'une discipline puisse s'intéresser aux animaux, alors qu'elle a pour objet de se rapporter aux humains. Mais comme vous l'avez compris, le paradoxe n'est qu'apparent. Depuis l'Antiquité, depuis des temps immémoriaux, les humains s'intéressent aux animaux en termes de fascination, c'est-à-dire à la fois d'attraction et de répulsion, et c'est bien là-dessus que se joue cette question de la dimension de l'altérité. Ce qui explique un certain nombre d'interrogations, car en fait, ce qui s'est joué, en particulier sous nos attitudes, c'est le type de différence que nous avons cherché à instituer entre eux et nous, qui n'est pas exactement du même type que le type de différence que nous avons cherché à instituer entre les différentes espèces animales. Et ça, ça oblige effectivement à réfléchir sur la nature même de l'altérité qu'on a cherché à réfléchir. Être humain, souvent, ça relève d'un certain nombre de problématiques qui sont en termes, je dirais, de ressemblance, de dissemblance avec les animaux, de continuité ou de discontinuité avec le reste des vivants, voire avec aussi le reste des êtres, hein, qu'ils soient inertes, dont nous parlerons également mes deux collègues à propos de l'échelle des êtres. Et plus encore, ça renvoie également à un ensemble, je dirais, de discours, de pratiques normatives et également prescriptives qui font qu'être humain, c'est une certaine aspiration et un certain type d'exigence toujours en devenir, en fait. Aussi, lorsqu'on cherche à réfléchir ce que peut caractériser le concept d'animal, hein, on voit bien que c'est un ensemble d'êtres vivants extrêmement divers, hein, et on peut se réfléchir de savoir qu'est-ce qu'ont en commun l'amibe, le lombric, les animaux pélagiens, animaux terrestres, et également de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'humain proprement dit, hein, qui n'est sans doute plus, je dirais, l'animal ou l'être vivant qu'il a pu être, mais qui reste de manière pérenne, animé d'une profonde à propos de ce qu'il fut, de ce qu'il est et de ce qu'il pourrait possiblement devenir, d'où les thèmes de transhumanisme, post-humanisme, quasi-humanisme. Les animaux, c'est clair, relèvent non seulement d'une foisonnante diversité, mais sont aussi omniprésents, je dirais, dans les multiples formes de la vie humaine, hein, concrètes dans la vie quotidienne, dans le monde du travail, mais aussi dans l'ensemble des formes de production, je dirais, symbolique, art, littérature, science, technologie. Ce qui a d'ailleurs conduit un certain nombre d'anthropologues à envisager que, tel est Munlich, le britannique, ou encore plus connu Lévi-Strauss, le français, que les animaux n'étaient pas seulement bons à manger pour les humains, mais qu'ils étaient également bons pour la pensée humaine en général. Donc ils constituent de puissants vecteurs dans lesquels, effectivement, les humains ont cherché, en termes, je dirais, catégoriels, c'est-à-dire en termes de classification, mais également en termes conceptuels, c'est-à-dire en termes de définition, si vous voulez, à se penser dans un régime plus ou moins de ressemblance ou d'opposition. Quitte parfois, et ça c'est un point, me semble-t-il, très intéressant d'un point de vue anthropologique et psychologique, à ressentir également le besoin d'imaginer des animaux fictifs. Hein, ça c'est pas quand même, c'est quelque chose de très important à imaginer, hein, qui n'ont aucune existence réelle, ou alors qui relèvent d'une hybridation, hein, entre humains, non-humains, voire qui peuvent la radicaliser. Je pense à la figure célèbre du xénomorphe, la figure de l'alien, hein, c'est-à-dire la radicalité poussée à son extrême. Donc les uns comme les autres, qu'ils soient fictifs ou réels, on pourrait dire que les animaux participent à ce qu'on pourrait dire une forme de constitution imaginaire des sociétés humaines. C'est pour ça qu'ils sont très intéressants. Ce qui est intéressant aussi de réfléchir, c'est que c'est ce que nous prétendons caractériser comme humain et comme animal. Ça n'a de sens et d'identité qu'en raison également d'une nomination qui est irréductiblement humaine, qui va ménager aux uns et aux autres une certaine place dans un ordre symbolique qui va différer selon les cultures, les espèces, les espaces, pardon, et les temps humains. N'oublions pas, il n'y a d'humains et d'animaux que pour des êtres vivants qui se pensent et se revendiquent comme spécifiquement humains. Ne soyons pas dupes, également, une grande partie des discours, représentations, témoignages en tout genre présente moins l'altérité animale en tant que telle, ou les altérités animales, parce qu'on pourrait l'envisager au pluriel, que celles que nous leur supposons, ce qui conduit généralement aussi les humains, peut-être, à parler un peu plus d'eux-mêmes et de leurs conditions que celles des animaux proprement dites dans l'ensemble des discours. Donc ce qui se joue à travers la question des animaux et de l'altérité animale, c'est que quelque part, elle conduit à réfléchir à une certaine assignation, je dirais ontologique, c'est-à-dire sur la nature de l'être, hein, de ce que peut être un humain et de ce que peuvent être en opposition des non-humains, qui ne se réduit pas forcément à une seule approche naturaliste qui pourrait proposer une perspective unidimensionnelle qui serait celle des sciences du vivant. Elle oblige également à réfléchir également à ce que peut être la singularité des sciences humaines et sciences sociales en général, et bien entendu, plus particulièrement, de ce que peut être une anthropologie. Que sont et qui sont les animaux? On pourrait dire, ça n'a rien d'évident, en dehors de faire des petits constats d'observation à partir de l'apparence, de traits, de comportements. On pourrait répondre également à chacun ces animaux, dans la mesure où les humains que nous sommes ne se sont jamais pensés et réfléchir indépendamment, si vous voulez, de la multiplicité de ces discours et représentations qu'ils peuvent porter sur eux-mêmes, sur l'altérité dans leur ensemble et relativement également, je dirais, à des pratiques qu'ils peuvent instituer. À chacun, donc, ces animaux, selon des types de configurations qui peuvent varier selon les temps et les espaces. C'est un point quand même essentiel à rapporter, surtout que souvent on peut avoir une lecture un peu trop ethnocentrée, qu'il n'y a pas de normes qui tendraient à régir, à réguler ou à légiférer d'une manière plus ou moins définitive et universelle les rapports entre humains et animaux, hein, ce qui nous conduit aussi à les envisager différemment. Qu'on peut réfléchir une infinie possibilité pour les humains de nouer, de dénouer, de lier, de délier les liens protéiformes qu'ils ont pu avoir avec les différentes espèces animales. Et ne l'oublions pas, l'humain est un être vivant parlant qui n'a jamais cessé de penser aux autres animaux, hein, qui a pu voir et parfois des parentés, et pas seulement biologiques, hein, dans une certaine communauté, je dirais, d'êtres vivants partagés avec eux. Le fait d'être humain ne se réduit nullement à une seule circonscription également en termes de savoir. Ça se pense également à partir de ce que nous faisons, par des habitudes de forme de vie, qui peuvent être aussi celles d'une plus ou moins indifférence également à l'endroit des animaux et de l'altérité animale. D'accord ? Tous les humains ne se soucient pas des animaux au même degré. Donc, cette raison d'un souci de l'altérité animale, elle peut être envisagée, bien entendu, comme faisant partie de notre humanité, voire l'assigner de manière irréfragable, hein, de savoir de quels êtres parlons-nous lorsque nous parlons des animaux, hein. Quelle est la place des animaux dans l'ensemble de nos discours? Que sont les animaux dans la pensée humaine? à quelles conditions pouvons-nous également les penser? Et qu'est-ce que nous cherchons également à penser en nous? D'où le rapport du même et de l'autre, hein, de la question de l'altérité et de l'identité. Hein. Ce point est essentiel. Hein. À quelles conditions et selon quels moyens pouvons-nous admettre quelque chose comme l'animal ou l'altérité animale et la pensée? Je dirais que jusqu'à récemment, pour l'anthropologie proprement dit, la question de l'altérité animale faisait un traitement scientifique relativement circonscrit, soit en termes de la zooanthropologie, qui était l'étude, on va dire, des pratiques sociales et humaines qui faisaient appel aux animaux. Et puis, une autre forme, qui était, on va dire, l'anthropologie animale ou l'anthropozoologie, qui, elle, cherchait à établir plutôt les relations entre humains et animaux dans les sociétés. Elle pouvait faire appel également à l'éthologie, c'est-à-dire effectivement à l'étude des comportements, à la zoologie, à une réflexion plus générale, si vous voulez, sur effectivement le vivant animal, ou bien encore à la zootechnie, qui sont l'ensemble des techniques mises en œuvre, par exemple, dans la domestication ou l'élevage. Ce qui est intéressant, c'est plutôt toute la question des interactions qui sont faites et qui peuvent constituer des données empiriques pour une réflexion et éventuellement une démarche scientifique. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle réflexion depuis une trentaine d'années, fondamentale, qui trouve aussi, je dirais, ses fondements depuis un contexte à la fois intellectuel, éthique et scientifique, qui a permis une sorte de décentrement de l'examen classique, justement, des rapports humains animaux, vers une question qui touche la défense des droits des animaux, de la cause des animaux, d'une libération animale, qui semble donner corps à l'idée également d'une sorte de tournant, on va dire, animaliste, hein, pour un certain nombre d'études en anthropologie. Alors, je dirais que cette effervescence pour l'anthropologie, elle est loin d'être unifiée, elle relève d'un certain nombre de clivages, de tensions, qui montrent que l'altérité animale est ô combien riche et complexe, qui nous oblige à réfléchir sur ce que peuvent être les animaux, qui traditionnellement étaient rattachés au pôle de la nature, et qui ont obligé, je dirais, les ethnologues ou les anthropologues à mettre en place des modèles d'intelligibilité qui nous permettraient de rendre compte justement de cette complexité et de cette richesse. Donc, envisager anthropologiquement l'altérité animale et développer des théories du non-humain en s'appuyant par exemple également sur des modèles qui ont fait leur preuve à propos des humains, dans des rapports par exemple d'opprimés et d'oppresseurs. Il y a eu quelque part cette effervescence pour l'anthropologie contemporaine. Elle s'est appuyée également sur une volonté d'une critique de l'ethnocentrisme, qui, quelque part, a donné un peu plus de matière et de reconnaissance à d'autres configurations possibles des rapports humains-non-humains, en s'appuyant sur, effectivement, l'expérience d'autres sociétés que celles, je dirais, occidentales, issues, on va dire, de la rationalité scientifique. Cela a permis, effectivement, d'emprunter d'autres formes de catégorisation, de configuration des environnements humains. De nouveaux regards ainsi se sont posés, ce que pourrait être sur les altérités animales, et se sont justifiés et ont donné ainsi l'occasion, on va dire, à ce qu'on pourrait appeler une révolution animale en anthropologie à propos du type de considération que nous serions à même, si vous voulez, à leur porter. On a pu ainsi, en cherchant, si vous voulez, à s'opposer à l'anthropocentrisme, proposer une reconsidération des animaux, sur le modèle, par exemple, de la défense des droits autochtones et minoritaires, en reconnaissant des droits spécifiques, en empruntant aussi à des mouvements, je dirais, issus de l'anthropologie contemporaine, un examen critique de certains dispositifs d'aliénation de l'altérité animale et de la domination des humains sur les animaux, en prenant en compte certains aspects spécifiques, comme effectivement la question de la souffrance, la question de la mise à mort industrielle. D'autres approches ont pu mettre aussi en œuvre des approches issues des études féministes en termes de care, de genre, pour mieux établir, par exemple, un parallèle entre les conditions des humains et des non-humains, hein, et qui a permis ainsi de proposer une sorte de médium des dynamiques d'oppression qui pouvaient avoir parfois les êtres humains sur les animaux. Cette florescence, hein, bon, il en existe un tant d'autres, on pourra y revenir. Il y a aussi des approches un peu plus naturalistes, hein, c'est-à-dire, en fait, ce qui se joue pour les sciences humaines et les sciences sociales, c'est de savoir qu'est-ce qui prévaut. Est-ce qu'avant tout, globalement, c'est plutôt une approche biologisante ou naturaliste qui prévaut pour rendre compte de la singularité humaine et celle des animaux, ou à l'inverse, est-ce que c'est les sciences sociales et les sciences humaines qui peuvent rendre compte même d'une approche en termes naturalistes? Cette florescence, je dirais, des études et des modèles d'intelligibilité à propos de l'altérité animale, interroge également, ça c'est un point plus spécifique, j'ai vu qu'il y avait des étudiants d'anthropologie dans la salle, la discipline proprement dit. Hein, c'est une sorte de réflexion métadisciplinaire. Tout simplement parce qu'il s'agit de savoir, par exemple, en quel sens l'éthologie comparative ou la psychologie animale, de quel savoir relève-t-elle, ou bien la primatologie. Est-ce qu'elle relève des sciences sociales? Est-ce qu'elle relève des sciences humaines, des sciences de la nature, des sciences du vivant? Voilà. Donc c'est un point fondamental. Ça pose également une question autre, très importante, en termes d'enjeux épistémologiques, épistémiques et méthodologiques, qui sont de savoir s'il y a un sens ou non à parler d'une anthropologie ou d'une ethnographie des non-humains. D'accord ? Alors aujourd'hui, ça paraît relativement évident de parler d'anthropologie des objets, des forêts ou des animaux, mais c'était loin d'être le cas précédemment. Il pourrait y avoir comme ça une forme de paradoxe. Il y a aussi la nécessité de réfléchir à partir de quoi on peut établir une supposée ontologie, c'est-à-dire une nature, essayer de réfléchir, si vous voulez, une sorte de discours sur la nature ultime de ce que seraient ces êtres, humains et non humains, et à partir de quoi nous pourrions prétendre, si vous voulez, produire une anthropologie ou une ethnographie des animaux. Cela donne, si vous voulez, un ensemble de débats au sein même de l'anthropologie qui sont intéressants. Par ailleurs, d'autres questions sont amenées à être interrogées en termes d'altérité. La manière dont on prétend, si vous voulez, en rendre compte, c'est de savoir si on peut interpréter, par exemple, les usages du concept de culture, de société ou de langage appliqués aux formes de vie animale. Est-ce qu'on les applique de la même manière qu'en régime humain ? D'accord ? Donc on est toujours ici dans ce rapport de l'altérité et de l'identité. L'idée d'une anthropologie des animaux n'est pas à minorer parce qu'il est sous-tendu également par des présuppositions et des conceptions de ce que nous serions nous-mêmes et de ce que seraient généralement les animaux. Des présuppositions qui sont souvent largement divergentes et qui peuvent expliquer également les problèmes parfois de convergence méthodologique à travers les différentes études que peut proposer les anthropologues ou les ethnologues à propos de ce que seraient les animaux. Moi, ce qui m'intéresse également à réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, une certaine exploration des rapports humains non-humains conduit également peut-être à une forme d'idéalisation des formes de vie animale et de l'altérité animale, qui parfois s'exprime par une forme de sensibilité misanthropique, qui peut être nous interroger, dans la mesure où, effectivement, peut-être que ce temps de discours peut obscurcir ce qu'ont été, ou possiblement été, les réalités humaines à propos des relations que nous avons pu avoir, que nous pouvons avoir et que possiblement nous pourrions avoir avec les animaux. Souvent, on propose souvent une représentation unidimensionnelle qui serait simplement une logique de la domination, mais c'est très très loin d'être le cas, et également pour notre société. Nous avons des cas et des circonstances où on peut constituer, si vous voulez, des vies communes, ce qu'on pourrait dire des communautés hybrides, des collectifs, qui reposent effectivement sur des alliances. Et l'un des cas les plus, je dirais, traditionnels, c'est celui du pastoralisme, où effectivement la vie humaine dépend de la vie de l'animal. Ce qui m'intéresse également, c'est que je dirais que cette question de l'altérité animale pour l'anthropologie réside sans doute moins dans ce qu'on a pu appeler la caractérisation d'un propre de l'humain que dans son statut proprement dit, dans le discours des humains eux-mêmes. Souvent, sous nos latitudes, nous avons réfléchi une sorte de privilège à la fois métaphysique, transcendant, antinaturaliste. Donc, et en ce sens, le propre de l'humain n'est peut-être pas tant ce qui différencie en termes d'altérité les humains des animaux que ce qui a prétendu placer les humains en premier par rapport aux animaux en second. Et c'est ça qui est intéressant, qui conduit peut-être à réfléchir le type d'investigation en termes d'échelle des êtres, à avoir peut-être un peu moins de verticalité et peut-être plus d'horizontalité, pour une réflexion qui serait, je dirais, plus éthique. Dans l'ensemble, globalement, être humain, c'est non plus être seulement celui qui est au-dessus de toutes les autres créatures vivantes, mais c'est celui qui peut avoir également le souci de l'ensemble du vivant, celui qui est le vivant responsable du vivant, et en tout premier lieu, de lui-même, c'est-à-dire également de ses propres conditions. Rappelons également que, effectivement, Aurélia soulevait la question tout à l'heure d'un risque entre l'anthropomorphisme et de son symétrique, le zoomorphisme. C'est que, quelque part, également, l'humain ne se donne pas directement à lui-même, de manière naturelle. Être humain, c'est également une décision de soi qui consiste également, quelque part, à outrepasser ses seules déterminations naturelles, biologiques, environnementales, écologiques, etc. Tout en maintenant, quelque part, au moins dans notre tradition qui s'appuie sur le naturalisme scientifique, que nous sommes le fruit d'une évolution naturelle à laquelle toutes les espèces sont partie prenante, je dirais, dans un devenir global du vivant. en guise de conclusion, je dirais que l'interrogation fondamentale est sans doute moins de savoir s'il y a une différence que de savoir de quel type et de quel statut est cette différence. Et comment elle peut se moduler, comment elle peut s'articuler à l'unité fondamentale et incontestable du vivant. Nous le savons, les humains ne peuvent se concevoir comme seulement et simplement humains. Quelque part, être humain, c'est s'éprouver contraint d'admettre qu'il y a quelque chose en nous dont nous procédons en tant qu'être vivant. Et c'est peut-être ça que nous cherchons à penser intuitivement et conceptuellement lorsque nous parlons éventuellement de part biologique ou de part animale. Et nous sommes également humains constitutivement en un second plan. Et c'est ça qui est intéressant, d'autant plus que, quelque part, le donné originaire de l'animal, hein, que nous pouvons prétendre défendre, n'est pas toujours facilement accessible, dans la mesure où, quelque part, notre humanité, qui s'est constituée, si vous voulez, sur des centaines, sur des milliers d'années, a recouvert un peu, justement, cette part-là. Une interrogation demeure, je dirais, pour l'anthropologie contemporaine, savoir ou non si nous avons les bonnes catégories, les bons concepts, pour décrire et dire ce que nous prétendons être, afin de mieux être en mesure de rendre compte de ce que sont les animaux et de ce que font les animaux. Étudier scientifiquement ou non les animaux contraint également à les voir avant tout comme des êtres vivants, composant certes avec des nécessités, je dirais, biologiques, qui va les distinguer les uns des autres, qui les distingue des espèces, mais également parfois selon les individus, mais avec lequel également il faut prendre activement en compte les conditions de leur propre existence concrète, de ce qu'ils sont possiblement en capacité de réaliser, de faire, de ce qui rend leur vie, je dirais, authentiquement ce qu'elles sont, et ce, à l'aune de leur propre expérience, qui est la nôtre, qui est celle d'un être humain. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Stéphane Cormier.
Il est important de noter une dimension mystique, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, on était passé du sacrifice humain au sacrifice animal. C'est bien connu. Et le transhumanisme et le posthumanisme, à mon avis, est inquiétant pour la raison suivante. C'est qu'il y a un certain nombre de penseurs, notamment aux États-Unis, on peut penser à Paul Ehrlich, on peut aussi penser à Zbigniew Brzezinski, qui considèrent que finalement, il y a dans la démographie humaine un certain excès. 7 milliards d'humains, ça fait beaucoup, d'autant que avec le machinisme, avec l'arrivée de la robotique, on a le sentiment qu'il y a pas mal d'humains, entre guillemets, inutiles. C'est ce qu'a dit clairement Zbigniew Brzezinski à la réunion de la Trilatérale il y a quelques décennies de cela déjà. Et donc, est-ce que l'irruption du transhumanisme, du posthumanisme, comme concept et comme dispositif de communication, ne risque pas d'amener finalement une sorte de perspective génocidaire pour les humains qui ne seront pas des transhumains? Alors c'est une inquiétude, bien sûr, mais il faut voir ce qui se passe aujourd'hui et essayer de décrypter le sens de notre époque. Et je pense que ces orientations vers le transhumanisme et le posthumanisme peuvent éventuellement porter en germe un certain nombre de menaces. Et c'est cette inquiétude qui m'interroge. Si vous avez des réponses, je les apprécierai. Merci beaucoup.
À ce propos, alors, c'est un petit peu, c'est pas forcément le propos que j'avais porté, mais bien entendu, quelque part, être humain, ça a toujours été quelque chose, si vous voulez, qui relève du devenir. Hein. Ça, c'est un constat. Même dans les sociétés dites froides, d'accord, ou qui seraient complètement traditionnelles. Hein. Elles sont, en général, les traditions sont toujours retravaillées. La question du post-humanisme ou du transhumanisme, si vous voulez, quelque part, elle poursuit toujours cette investigation qu'être humain, c'est toujours quelque chose, un désir, une décision, une institution. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'au lieu de se référer, si vous voulez, à éventuellement un certain type de valeur qui pouvait être pensée à travers des croyances, des rites, des mythologies, la théologie, la philosophie, la morale, etc., on fasse appel non plus à d'autres critères qui seront effectivement de caractère scientifique et des capacités afférentes, si vous voulez, en termes de possibilités des sciences du vivant. Donc, qui tendrait effectivement, si vous voulez, à envisager l'humain aussi comme un être, si vous voulez, hybride, hein, avec des prothèses ou autre. Hein. Voilà, hein, c'est ça qui est en jeu. Alors, il ne s'agit pas ici de jouer les Madame Irma, je ne sais pas ce qu'il en sera à 20 ans ou 30 ans, mais par contre, ça peut être intéressant, parce que moi, je suis amené à travailler avec des collègues anthropologues, mais également psychologues, qui, eux, s'intéressent de savoir si, effectivement, le jour où on se retrouvera devant des étudiants, voire devant des patients auxquels on aura ajouté éventuellement des prothèses ou des orthèses, qu'est-ce qu'il en sera effectivement. Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, parfois, les sciences humaines et les sciences sociales ne réfléchissent insuffisamment à ce qui va se présenter à nous. Voilà, parce que c'est déjà le cas, parfois, dans d'autres sociétés. D'accord ? Voilà. Mais qu'il y a, n'oublions pas, des multiples façons également d'être humain, aussi. Et donc d'être méfiant à l'égard du processus de standardisation qui peut s'approcher, et puis qui est loin d'être neutre sur un plan idéologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que peut-être d'autres collègues voudraient répondre à cet aspect.
Pour, si vous voulez également d'autres informations, je vous invite à aller sur le site internet de MOLA et vous retrouverez trois très belles conférences qui ont été faites par le collectif Université l'année dernière sur ce sujet.
Merci pour votre intervention. Ma question, c'était sur l'une des postures que vous avez décrites à la fin. Vous avez dit, donc, arrêtez de placer l'homme au-dessus de l'animal. Et en même temps, le prendre comme responsable, ou en tout cas lui donner un statut spécifique, puisque ça serait celui qui a conscience de l'ensemble du vivant. Mais c'est ça qui me pose problème. C'est à partir du moment où on veut arrêter de placer l'homme au-dessus, mais qu'on dit qu'il est spécifique parce qu'il a conscience de l'ensemble du vivant, voire qu'il en est responsable, on réintroduit nécessairement une forme de verticalité dans le rapport. Donc j'ai du mal à concevoir, en fait. Comment on annule toute verticalité si on donne vraiment un statut spécifique à l'être humain ?
On peut peut-être envisager qu'il puisse y avoir une échelle qui soit un peu moins verticale et peut-être un peu plus horizontale, d'accord ? Et donc, effectivement, si vous voulez, de porter ça. Encore que c'est la question d'échelle qui puisse être problématique. Mais je laisserai le soin d'envisager ça avec mes deux collègues qui vont vous en parler. D'accord ? Voilà, ça c'est clair. Ça pose aussi la question, effectivement, du type de statut que nous donnons, nous accordons, et qui, effectivement, du régime aussi, dont je n'ai pas parlé, mais qui est fondamental, qui, moi, m'intéresse, du régime, on va dire, de l'exception humaine ou pas, voilà, qui tend, effectivement, soit à déployer une conception anthropocentré, soit au contraire zoocentré. Or, on voit bien que quand même, quelque part, un certain discours des sciences du vivant tendrait à nous présenter, si vous voulez, comme des singes un peu plus évolués que d'autres. Voilà. Or, globalement, si nous avons été en capacité de produire un certain nombre d'institutions en termes de savoir et de pratiques, comme les sciences humaines, le droit ou je ne sais quoi d'autre, d'accord, on montre bien que, quelque part, nous ne sommes pas restés simplement au seul état animal auquel nous pourrions considérer, pour autant qu'on puisse parler d'une altérité animale. Je pense qu'il est plus intéressant de parler d'altérité animale au pluriel, des formes de vie animale. Parce que qu'est-ce qu'on a en commun, si vous voulez, effectivement, l'amibe, d'accord, le lombrix, la baleine, c'est pas aussi évident, à part quelques lois cellulaires, hein, et encore.
Toujours sur la question verticalité, horizontalité. Moi, en vous écoutant, je pense que j'ai plein de bactéries dans le ventre, hein, et que du compte...
j'ai pas compris le...
En vous écoutant, je pense au fait que j'ai plein de bactéries dans le ventre, ouais, et qu'elles sont indispensables à ma vie. Et donc, ce discours, est-ce qu'on se met sur un plan horizontal, un plan vertical ? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il y a une autre dimension qui fait que je suis dans la biosphère, mais en même temps, j'ai une partie de la vie qui est à l'intérieur de moi, et que les choses, elles sont imbriquées d'une manière tellement vitale pour les uns et les autres, que du coup, à la fois horizontal, vertical, je saisis mal, et même la notion d'altérité, il me semble qu'elle doit être revue... En considérant donc ces symbioses entre l'être humain et certains êtres vivants.
Sans doute, mais les remarques que vous pourriez faire, elles portent aussi sur d'autres êtres vivants, hein,
oui,
qui aussi eux ont des bactéries, peuvent s'interroger aussi sur le fait effectivement, du moins avoir une certaine sensibilité, hein, du fait de vivre également, hein, parce qu'on peut se poser cette question-là pour certaines espèces au moins, et parfois certains individus. Bien entendu que la question de l'altérité et de l'identité, elle est complexe. C'est une manière, si vous voulez, de se poser en s'opposant, d'accord, au cœur même de l'anthropologie, puisque c'était ça le thème de l'intervention. L'anthropologie, c'est ça, d'accord, hein, la question de l'altérité, c'est le nexus, hein, et c'est à la fois le vecteur, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'il cherchait d'interroger, et en même temps, c'est aussi l'outil par lequel on tend à proposer des démarches intellectuelles, d'accord, ou d'investigation, d'enquête de terrain, d'accord, voilà, hein, effectivement, voilà, dire, vous ne pouvez, je ne pense pas qu'on puisse, si vous voulez, c'est pas du tout ma prétention, de circonscrire ce qu'aurait pu être l'altérité et l'identité, et encore moins en 15 minutes, d'accord, hein, j'ai essayé au contraire de montrer un petit peu la richesse et la complexité, même à l'intérieur même de l'anthropologie, qui peuvent conduire, effectivement, à réfléchir, si vous voulez, la manière dont nous abordons l'autre, tout simplement, et en particulier ce que nous désignons par le qualificatif d'animaux, ou de forme de vie animale, d'accord, de manière extrêmement différente.
Nous allons continuer notre réflexion aux côtés de Violaine Giacomotto, qui va nous emmener au XVIe siècle, en évoquant les représentations que les hommes avaient des animaux à cette époque.
Oui, bonsoir. Donc, je vais effectivement présenter quelque chose d'un peu différent, qui est la vision, une des visions en tout cas, que l'homme pouvait avoir de l'animal à la Renaissance. Une des visions, parce que en fait, les rapports homme et animal sont un débat philosophique complexe à la Renaissance. Alors, on n'a pas le temps en 15 minutes de tout aborder, donc je vais vous donner un aperçu qui correspond grosso modo à la pensée dominante. Alors, avant cela, je voudrais rappeler, parce que je pense que la réflexion sur l'animal au XVIe siècle est peu connue, je voudrais rappeler d'abord que le XVIe siècle est un grand siècle de zoologie, contrairement à ce qu'on pense souvent. Hein, les textes antiques, comme les textes médiévaux, ont été à cette époque-là recueillis et passés au crible du double regard des philologues et des naturalistes. Et dans les années 1550-1600, il y a une formidable production de sommes très complètes de zoologie. Et ces sommes enregistrent à la fois tout un savoir ancien, mais aussi en très grande partie produisent un savoir nouveau, fondé sur l'observation et qui est extrêmement complet. Alors, un exemple, le grand naturaliste suisse Konrad Gessner, qui est l'auteur d'une histoire des animaux, pour chaque animal recensé, examine très précisément le nom qu'on lui donne dans toutes les langues connues, mortes ou vivantes, sa morphologie, son lieu de vie, son alimentation, ses mœurs, mais aussi, le discours étant anthropo-orienté, ses usages pour la cuisine ou pour la médecine, qui sont une partie importante du savoir sur l'animal. Mais pour vous donner juste une idée de ce qu'on trouve dans un livre de zoologie de la Renaissance, voilà, c'est juste deux images qui permettent d'avoir une idée, parce que souvent on ne connaît pas ces images, de la précision extrême à laquelle sont parvenus à cette époque-là les savants. Ça, c'est une image tirée d'un ouvrage de Gessner sur les poissons, et voilà une pieuvre d'Aldrovandi, alors qui a été aquarellée à la main, mais qui est une très très jolie image. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est dans le cadre d'une véritable zoologie que prend place la réflexion sur l'homme et l'animal. Alors, cependant, ça n'est pas dans les traités de zoologie qu'on va la trouver, même si cette zoologie crée un cadre intellectuel, parce que la question de l'approche des rapports homme-animal est conditionnée aussi par d'autres schémas, et en particulier par la représentation de l'ensemble du monde. Et il ne faut pas oublier que même pour le savant le plus parfaitement naturaliste de la Renaissance, le monde est une création divine. Or, la question de l'âme des animaux, par exemple, est un très vieux débat philosophique, mais pour un savant de la Renaissance, pour un philosophe de la Renaissance, elle est clairement assimilée à des théories athéistes. Et dans le cadre chrétien, l'animal et l'homme s'inscrivent donc dans ce qu'on appelle l'échelle des êtres. Alors l'échelle des êtres, on en a parlé, en voilà une représentation qui est issue d'une publication du XVIe siècle de l'œuvre d'un philosophe médiéval, Raymond Lull. Donc dans cette échelle des êtres, on représente une gradation des êtres matériels et des êtres spirituels. Au bas de l'échelle, les pierres, le feu, vous voyez les éléments, les plantes, les animaux, l'homme. Et puis au-dessus de l'homme, il y a autre chose, il y a les anges et il y a Dieu. Donc dans le cadre chrétien, l'homme comme l'animal sont en général, par la grande majorité des philosophes, pas tous, mais par la grande majorité des philosophes, sont pensés par rapport à cette échelle des êtres. Et la particularité de l'homme, c'est qu'il est au sommet de l'échelle des êtres matériels. Mais il y a d'autres façons de figurer l'échelle des êtres. L'homme englobe aussi l'ensemble des créatures, et le vivant se conçoit comme une sorte d'addition. Ici, vous avez l'image d'un des grands philosophes, enfin, qui est tiré d'un ouvrage d'un des grands philosophes de la Renaissance, qui est Charles de Beauvel. Et dans ce livre du Sage, il explique que l'homme est au sommet de l'échelle des êtres, non seulement parce que c'est sa constitution d'homme, mais aussi parce qu'il s'élève par la pensée, et en fait, il peut très bien rester au niveau de la pierre ou de la plante ou de l'animal s'il ne fait pas l'effort de cultiver sa raison. Donc, vous le voyez, la plante est, elle se contente d'être, la pierre se contente d'être, la plante est et vit, l'animal est, vit et sent, et l'homme est, vit, sent et réfléchit. Dans cette image-là, on a quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que malgré le côté scalaire, l'échelle, il y a une forme de continuité parce que l'homme, d'une certaine façon, englobe tout le reste du vivant. Hein, et Pic de la Mirandole, qui est un philosophe du XVe siècle, a une très belle image qui est très célèbre. Il dit de l'homme que c'est un caméléon, parce que contrairement aux animaux qui sont déterminés et assignés par la nature à un rôle et une mission, l'homme peut se faire ce qu'il veut et il cultivera ses germes de plantes ou d'animaux ou d'animal rationnel. Et donc, l'homme est clairement un animal, il y a une forme de continuité, mais c'est un animal raisonnable et il est déterminé par le fait de ne pas être déterminé. Et c'est sa liberté qui est le grand critère distinctif. Alors, dans ce cadre-là, comment est-ce que un philosophe ou un savant de la Renaissance pense la relation homme-animal ? Évidemment, ce dont je vais vous parler, c'est un regard qui est biaisé par cette échelle des êtres et par le fait que l'homme, étant au sommet de l'échelle, ce que très peu de gens contestent, et d'une certaine façon l'étalon qui permet de mesurer en creux et par défaut les autres êtres, les autres participants du vivant. Et tout discours sur l'animal est toujours, d'une certaine façon, un discours sur l'homme. Donc ça, il faut l'accepter pour les textes de cette époque. Mais en même temps, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce regard de la Renaissance ne doit pas être pris de manière manichéenne, parce que, par définition, l'animal est aussi une créature divine. Et bien que la représentation soit scalaire, la proximité entre l'homme et l'animal est quand même troublante, et c'est un sujet qui interroge énormément les penseurs de cette époque-là. Et donc, de manière très significative, ce n'est justement pas dans les traités de zoologie que l'on va trouver des considérations sur les rapports de l'homme et de l'animal, mais c'est dans les textes qui sont consacrés à l'homme, et parfois à des endroits un peu surprenants, par exemple dans les traités sur l'âme, parce que, évidemment, c'est là qu'on va s'interroger ou pas sur l'existence de l'âme animale. Alors, ce que j'ai choisi de faire, dans les 10 minutes qui doivent me rester, ça n'est pas d'essayer de vous présenter l'ensemble des débats de la Renaissance sur le sujet, parce que c'est un sujet philosophique ancien, je le disais, donc avec les réminiscences de mouvements de pensée philosophique divers, on assiste à des débats qui sont très compliqués, mais j'ai choisi de vous faire faire un parcours dans un texte qui est à la fois représentatif de la pensée dominante et en même temps un peu surprenant, parce que je l'ai tiré en fait d'un ouvrage de médecine, donc on retrouve bien ce paradoxe premier, et c'est le premier chapitre, enfin c'est le premier livre qui ouvre les œuvres complètes d'Ambroise Paré. Donc Ambroise Paré, qui est en général plutôt connu pour le père de la chirurgie moderne, et donc qui pour aller vite était un médecin, enfin pas tout à fait parce que c'est plus compliqué que ça, il n'avait pas suivi d'études universitaires, mais enfin disons qu'il achève sa carrière comme médecin du roi. Il publie de très importantes œuvres complètes, essentiellement tournées vers la chirurgie. Et au début de ces œuvres complètes, qui vous explique comment soigner une plaie faite par arquebuse ou comment arrêter la gangrène, il y a ce traité des animaux qui s'appelle aussi traité de l'excellence de l'homme, mais voulant parler de l'excellence de l'homme, c'est tout à fait significatif, Ambroise Paré parle essentiellement des animaux. Alors donc, la première chose sur laquelle on peut s'arrêter, c'est que pour le regard d'un contemporain d'aujourd'hui, de quelqu'un d'aujourd'hui, évidemment, c'est en soi intéressant et surprenant de trouver un traité des animaux au seuil d'un ouvrage de médecine. Mais c'est justement le signe qu'Ambroise Paré pose la question de la spécificité de l'homme à travers l'analyse de son rapport à l'animal. Et en fait, on comprend à le lire qu'il est gêné, qu'il tente de répondre à un paradoxe. Selon l'échelle des êtres, l'animal est clairement inférieur à l'homme, et c'est une place qui lui a été assignée par Dieu, donc il est un peu délicat d'en discuter. Et pourtant, quand on observe les animaux, on s'aperçoit qu'ils présentent des propriétés absolument remarquables. Alors, je ne vais pas lire tous les textes, mais si vous avez le temps, vous pouvez les lire. Je voudrais quand même citer un peu, parce que c'est en entendant la voix de ces auteurs qu'on comprend l'intérêt du débat. Voilà ce qu'il écrit dans le premier chapitre. Il y a une infinité d'autres propriétés admirables. Il vient de faire une grande liste des propriétés animales. Si nous voulons contempler leur façon de faire, donc les bêtes, nous trouverons qu'elles sont douées de certaines vertus naturelles, en chacune affection de courage, en prudence, force, clémence, discipline. Elles se connaissent les unes les autres, elles discernent entre elles, Elles appètent les choses qui leur sont utiles, elles fuient le mal, elles évitent le péril, elles pourvoient à l'avenir, elles amassent ce qui est leur nécessaire, elles présagent le beau et le mauvais temps, elles ont montré plusieurs choses aux hommes, elles ont un sentiment exquis, elles chantent en musique, elles ont une industrie et amitié à la conservation de leurs petits, elles ont l'intelligence du pays où elles naissent, elles gardent une singulière chasteté. Concorde et amour les unes envers les autres, elles sont armées pour combattre, etc., etc. Donc vous voyez, ces animaux sont extraordinairement doués de vertu. Hein, et avec un livre qui s'ouvre sur cet éloge remarquable, on pourrait douter du fait de la supériorité humaine, d'autant que toutes ces vertus sont naturelles. Et c'est ça qui est très important chez les animaux. Alors sur cette base-là, Ambroise Paré donne ensuite une très longue liste d'animaux. Et chacun de ces animaux a quelque chose à apprendre à l'homme. Donc là encore une fois, on est dans le cadre d'un regard anthropomorphique et anthropocentré, mais néanmoins le fait de s'interroger sur cette valeur de modèle de l'animal produit des résultats un peu surprenants. D'abord, parfois, eh bien, l'animal supplante l'homme. Il est modèle au sens où il l'enseigne, il est le maître de l'homme. Et par exemple ici, Ambroise Paré parle de la capacité des oiseaux à construire leur nid, hein, et il dit c'est fait tant proprement qu'il n'est possible de mieux, donc il n'est pas possible de mieux faire qu'un oiseau, hein, tellement qu'il surpasse tous les maçons, charpentiers et édificateurs. Hein, et ensuite, dans la suite du texte, il explique que les oiseaux sont tellement doués que non seulement ils font un lit, mais ils y mettent des plumes pour faire une petite couverture, une couette pour les petits, donc ils témoignent d'un soin tout particulier. L'animal fait mieux que l'homme, et l'homme, d'une certaine façon, est condamné à imiter comme il peut l'animal. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'animal n'apprend pas seulement à l'homme des techniques, comme les oiseaux. Il lui apprend aussi naturellement des instruments. Alors, par exemple, en regardant certains animaux, on apprend à se défendre, puisque nous sommes nés tout nus et sans armes, ce qui n'est pas le cas du hérisson de mer que vous avez là. Et puis, il lui apprend aussi des savoirs plus abstraits. Et là, ça devient intéressant. Alors, Ambroise Paré, qui est médecin, s'intéresse beaucoup à ce qu'on peut apprendre en observant le comportement animal. Et je vous donne là un petit exemple savoureux, vu que c'est l'heure du dîner, de ce qu'on peut apprendre, par exemple, en observant une cigogne qui a, comme vous le voyez, inventé l'usage du clister. Et quand la cigogne se sent un peu aggravée d'humeur, un peu encombrée, elle va au bord de la mer, elle remplit son bec d'eau marine, elle se seringue par la partie où on expulse les excréments, et donc elle se fait un lavement et elle se purge. Plus intéressant, enfin en tout cas moins plus approprié, les chèvres nous ont appris à opérer la cataracte, puisque quand elles ont une cataracte et qu'elles sentent ce voile devant l'œil, elles se frottent sur des épines jusqu'à arracher la partie de l'œil qui est obscurcie. Quant à l'hippopotame, qui est un peu glouton, comme chacun sait, eh bien, de temps en temps, il se pique sur un roseau, ce qui lui permet de se faire une phlébotomie spontanée. Et c'est comme ça qu'on a appris à faire la phlébotomie. Et il y a aussi tout un tas de remèdes médicinaux. Par exemple, vous le voyez dans l'extrait que je vous ai mis, je crois que je l'ai maintenu jusque-là, voilà, la tortue, lorsqu'elle a mangé de la chair de serpent, qu'on soupçonne être empoisonnée, mange de l'origan, autrement marjolaine sauvage. Voilà, donc on n'est pas loin des préconisations qui nous invitent à manger du curcuma et 5 fruits et légumes par jour. Dernière chose, ces animaux ne sont pas simplement un modèle technique et scientifique, ce sont aussi des modèles moraux. Alors, deux extraits. Les animaux, d'abord, nous montrent spontanément, et en cela, ils sont aussi supérieurs aux humains, qu'on doit toujours avoir soin de ses enfants. Et dans la société du XVIe siècle, ça n'est pas un modèle vain, parce que évidemment le nombre d'enfants maltraités, abandonnés est très important. Donc les animaux, eux, n'abandonnent jamais leurs enfants et ils préfèrent mourir plutôt que de sauver leur vie en s'enfuyant. C'est ce qui est dit dans ce passage-là. S'il faut par ce moyen abandonner leurs petits, elles aiment mieux être mises en pièces que de les perdre et de les laisser en arrière. Et la saison où les bêtes sont les plus furieuses, c'est lorsqu'elles nourrissent les petits. Mais cet amour pourrait être présenté comme purement instinctif. Or, la cigogne, qui, outre d'avoir inventé le clister, est aussi douée d'une belle vertu d'âme. Vous voyez, cette cigogne nourrit son père et sa mère en leur vieillesse. Et quand les petits savent voler, ils s'aident entre eux. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la formulation. Par ainsi, ils ne sont pas seulement humains envers leur père et mère, mais aussi entre eux, comme frères et sœurs, les uns envers les autres. Et donc, dans ce texte-là, Ambroise Paré n'hésite pas à qualifier l'animal d'humain, et ça brouille quand même les représentations qu'on peut avoir de ces relations homme-animal, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas là face à un simple partage des espèces, comme le laisserait penser l'échelle des êtres, mais il y a vraiment déjà, se pose déjà la question des valeurs, et vous le voyez finalement, le fait que le regard soit anthropocentré conduit, en apparence paradoxalement, mais on comprend pourquoi, en fait, à une très importante valorisation du monde animal. Alors, ça va parfois extrêmement loin. Le monde animal est utilisé pour fonder la légitimité du monde humain. Alors là, c'est un long texte, mais qui est absolument délicieux, parce qu'Ambroise Paré trouve, qui est médecin du roi, trouve dans l'observation des abeilles une légitimation impeccable de la monarchie. Les abeilles sont entre elles comme une petite république, elles ont un roi, lequel est plus beau, plus gros et plus fessu de foie que les autres mouches. Il a les ailes courtes, les jambes droites, un marché plus grave que les autres, ayant une tache au front qui lui sert de diadème ou de couronne et qui est le signe royal d'autorité et de majesté, et il est plus poli que les autres mouches à miel. Elles ont un aiguillon pour leur arme et défense, mais le roi n'en a point, ou pour le moins il n'en use point. Lorsqu'il marche, il a sa garde qui l'environne et toute la troupe le suit, etc. Alors, plus loin dans le texte, on découvre que quand le roi des abeilles meurt, tout le monde est très triste, qu'on porte le deuil du roi, qu'on l'ensevelit en terre et bien ensuite qu'on en élit un autre promptement. Donc, on a un parfait modèle de comportement social. Et même sur la question assez ardue du langage, Ambroise Paré ne recule pas devant l'idée de reconnaître aux animaux une forme de supériorité. Les oiseaux, par exemple, ont bien l'avantage par-dessus les hommes, car nature leur apprend à chanter sans labeur, et il ne leur faut point tirer les oreilles à l'école de musique pour leur apprendre leur chant, comme les chantres les tirent aux enfants auxquels ils les font langue comme celle des ânes. Ils discernent et connaissent leur voix, et il semble aussi qu'aucun, c'est-à-dire certains animaux, parlent, et aussi qu'une apparence de rire est vue en eux, quand ils blandissent leurs oreilles et qu'ils retirent les naseaux. Donc les animaux chantent mieux que nous. De toute évidence, ils parlent et ils rient. Donc là, il y a quand même une interrogation sur un certain nombre de choses qui sont normalement les traits distinctifs de l'homme. Et ils sont même supérieurs parce que quand deux rossignols dialoguent entre eux, ils se connaissent, tandis que quand un homme d'un village fait 50 km, il est incapable de comprendre ce que lui dit son plus proche voisin. Alors, où s'arrête cet éloge des bêtes? Puisque là, on a l'impression que l'idée de la supériorité de l'homme est renforcée. Alors, c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire que une pensée comme celle d'Ambroise Paré, qu'on retrouve chez... Enfin, il n'est pas original, Ambroise Paré, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est une pensée qu'on retrouve chez beaucoup d'autres savants contemporains. Sa pensée est orientée quand même par une finalité qui est que tous ces animaux ont été créés ainsi aussi parfaits parce qu'ils peuvent servir de modèle à l'homme. En regardant les fourmis, on va apprendre à conduire une armée. En regardant une araignée, on va apprendre à tisser, etc. Et tant que c'est l'animal qui peut servir de modèle à l'homme, tout va bien. Les choses se compliquent si on a des animaux qui tentent de s'inspirer de l'homme. Et alors là, on est dans une forme d'impasse intellectuelle pour un savant de la Renaissance. Et Ambroise Paré, qui loue absolument tous les animaux possibles, il a une sorte de blocage intellectuel, c'est évidemment sur la figure du singe. Le singe est un animal ridicule, beau toutefois au jugement des enfants, mais il leur est un passe-temps pour rire, car s'essayant d'imiter tous actes d'homme, il ne le peut faire, et partant, il prête à rire à ceux qui le regardent. Il raconte l'histoire d'un singe malfaisant à qui on a dû couper les mains. Et donc, on s'aperçoit qu'on est bien quand même dans une structure scalaire, même si elle est moins strictement, ça rejoint ce qu'on disait, moins strictement horizontale que ce qu'on pourrait penser. Mais le problème, en fait, c'est la réversibilité. C'est qu'on peut monter l'échelle des êtres, on ne peut pas la descendre. Et l'homme est supérieur aux animaux, finalement, parce que Au départ, il lui est inférieur. Hein, il naît tout nu, il est incapable de manger tout seul, il n'a pas d'armes, etc. Mais par l'éducation, il va pouvoir tout surpasser. Et là, par exemple, Ambroise Paré fait une liste de tous les cris animaux que l'homme est capable d'imiter. Et il explique qu'en retour, l'animal n'est pas capable d'imiter la parole humaine. Hein. Et donc, en fait, ce qui fait la supériorité de l'homme, c'est paradoxalement son infériorité, parce qu'il doit tout apprendre. Donc les animaux lui servent de modèle, mais d'abord ce sont des modèles partiels, c'est-à-dire que c'est l'accumulation du modèle animal qui va faire le savoir humain. On apprend à construire avec les oiseaux, à soigner avec les cigognes, à être charitable avec le pélican, mais chaque animal a une, deux, trois capacités, l'homme les concentre. Hein. Et sa marque distinctive, c'est d'être capable, évidemment, d'apprendre l'ensemble de ce savoir et aussi de le théoriser. Sur la transmission, il y a des débats, parce que justement, les animaux, on a observé que les animaux étaient capables de s'enseigner à chacun des choses. Hein. Mais finalement, quand on arrive au bout de ça, quelle est la caractéristique de l'homme, hein? Eh bien, c'est que Dieu lui a donné trois choses, la raison, la parole et les mains. Et vous le voyez, par ces trois prérogatives, il l'a séparé des autres animaux. Il ne l'a pas séparé des animaux, il l'a séparé des autres animaux. Donc l'homme est un animal doué de raison, doué de parole, et qui a des mains. Et pour quelqu'un du XVIe siècle, qui vit en quelques décennies après l'invention de l'imprimerie, évidemment, ce qui est très important aussi, c'est le rôle de l'écrit qu'on ne trouve chez aucun animal. Mais donc, au bout du compte, Ambroise Paré, finalement, n'apporte pas d'explication autre que le rôle de Dieu pour légitimer la supériorité de l'homme. Si l'homme est supérieur, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi et l'a fait à son image. Mais ce qui est assez intéressant avec ce texte, c'est que quand on regarde l'éloge des animaux, on s'aperçoit bien qu'il y a dès cette époque-là une tension entre ce qu'on accepte comme un fait d'une part, la supériorité de l'homme au sommet de l'échelle des êtres, et en même temps un questionnement très important qui surgit de l'observation. Et juste en un mot pour conclure, cette position d'Ambroise Paré, elle est assez représentative de la pensée de la Renaissance, mais dès cette époque-là, il y a aussi des penseurs qui contestent beaucoup plus fortement, en reprenant toutes ces thématiques, les animaux rient, les animaux parlent, les animaux s'enseignent les uns aux autres. Il y a des penseurs qui contestent fortement la supériorité de l'homme, et l'un d'entre eux, c'est Montaigne, qui attaque violemment la théorie de l'échelle des êtres et qui essaie de faire point par point la démonstration que l'animal est parfaitement raisonnable, rationnel, on dirait aujourd'hui, ils disent raisonnable, comme l'homme, et que donc l'homme n'a absolument aucun droit à se dire supérieur. Donc dans l'apologie de Raymond Sebond de Montaigne, on a la démonstration qui est minoritaire largement à cette époque-là, mais qui vise à renverser justement cette échelle des êtres. Voilà. Et on finira sur une dernière image.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre une question avant d'enchaîner, s'il vous plaît.
Bonsoir, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tout ce que vous avez dit, mais à un moment, vous avez dit que l'homme était déterminé.
Non, j'ai dit qu'il était déterminé par le fait de ne pas être déterminé.
Est-ce que ça veut dire... Mais il est quand même déterminé par Dieu, à cette époque-là. Enfin, bon,
et encore... non, au sens où...
Est-ce que c'est dans le sens de destin? Est-ce que c'est dans... Voilà.
Moi, non, c'est au sens où il est libre de se faire homme ou pas. C'est-à-dire que...
Ah, il n'est pas déterminé, alors
Non, c'est ce que je dis. Il est déterminé par rapport aux animaux, par le fait de ne pas être déterminé. Ce qu'il distingue, c'est qu'il n'est pas déterminé comme les animaux. Il est absolument libre de se faire homme.
Dans toutes les religions, il y a bien cette question de destin et de détermination.
Non, pas nécessairement dans toutes les religions. Enfin, là, c'est quand même lié à une idée qui est très humaniste, qui est l'idée qu'on ne naît pas homme, mais qu'on le devient. Il y a vraiment une différence entre la notion parler de notion biologique, ça me gêne parce que c'est anachronique. Mais à partir du moment où on considère que l'homme est un animal qui se distingue par la raison, un homme qui ne mettrait pas en œuvre sa raison ne serait pas un homme, finalement. Et quelqu'un comme Charles de Beauvel, que je citais, dont on a parlé aussi l'année dernière, dit qu'il y a plusieurs définitions du mot homme. On peut être homme biologiquement, mais la définition principale, c'est homme au sens de l'homme rationnel. Et donc, à ce titre-là, les enfants ne sont pas des hommes, les fous ne sont pas des hommes, les vieillards gâteux ne sont plus des hommes.
Ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'il y avait peut-être un paradoxe avec une époque qui est quand même marquée par la religion catholique et par le fait que l'homme n'est pas libre, mais une créature de Dieu. Et voilà, moi, c'est sur ce terrain que je...
Oui, mais Dieu crée l'homme libre. C'est tout l'enjeu autour du libre arbitre au XVIe siècle. Là, c'est un débat philosophique absolument abyssal. Hein, mais il y a un débat de fond dans le problème en particulier du schisme entre catholiques et réformés, qui est la question du libre arbitre. Hein, mais alors là, je pense qu'il est prudent de ne pas s'y aventurer.
Nous allons continuer avec Pascal Duris.
Il y avait d'autres questions.
Peut-être on pourra répondre aux questions après.
On peut prendre un peu de temps.
On
est même plutôt, je crois, un peu en avance.
Je voulais poser la question. Donc, je ne sais pas si c'est dans votre domaine, mais par rapport à cette époque, peut-être même un petit peu plus avant, mais dites-moi. On a évoqué parfois donc, le fait que les animaux pouvaient être mis en... Enfin, ils avaient un procès, en fait, contre eux.
Oui.
Et donc, comment ça se passait? Est-ce qu'il y en a qui gagnaient leur procès?
Alors, là, effectivement, il y a des procès contre les animaux, parce que quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que si on sort d'une approche du type de celle d'Ambroise Paré, qui voit dans l'animal uniquement, finalement, une sorte de modèle à disposition de l'homme, les animaux d'Ambroise Paré, hormis le singe, hein, n'ont pas de vice. Mais à partir du moment où, justement, parce que le débat sur l'âme, il existe vraiment. En plus, la notion d'âme à la Renaissance et au Moyen-Âge, c'est compliqué parce qu'il y a diverses âmes végétatives, sensitives, intellectuelles, etc. Donc, le curseur peut se déplacer. Donc, on accepte que les animaux aient en partie une âme, etc. Et à partir de là, ils peuvent pécher et avoir des vices. C'est-à-dire que si on les rapproche de l'homme, l'intérêt, c'est qu'ils sont moins parfaits et que l'animal, devenant plus proche de l'homme, devient plus vicieux. Et donc, effectivement, hein, il y a eu des cas de jugement et de condamnation à mort d'animaux qui étaient accusés d'avoir commis des crimes. En particulier, il y a eu des cas célèbres de truies pendues pour avoir dévoré des nourrissons au berceau. Et là, c'est vraiment une projection anthropomorphique qui part du principe en particulier de l'exemplarité de la peine. Mais ce n'est pas un domaine dont je suis spécialiste. Hein. Et je crois que c'est Michel Pastoureau qui a dû écrire un ouvrage en particulier sur ce sujet. Alors après, les animaux qui gagnaient leur procès, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup, hein, mais là, franchement, c'est pas. Enfin, voilà, c'est un sujet que je connais un peu parce que. Mais il me semble en plus que au XVIe siècle, je sais pas s'il y en a beaucoup. Hein, y a pas mal de procès au Moyen Âge, hein, en particulier d'animaux domestiques, mais enfin voilà, justement, ça, c'est un bon exemple qui permet de s'interroger sur les limites, parce que si on rapproche l'homme de l'animal, enfin l'animal de l'homme plutôt, on le traite, hein, comme un homme, et donc on estime qu'il est responsable et suffisamment responsable et intelligent pour au moins comprendre l'enjeu de son procès, et que les autres, surtout parce que le but c'était que les autres animaux comprennent l'exemple.
Alors après, pour aller jusqu'au bout de la logique, en tout cas, si on veut le rapprocher de l'homme, autant à ce moment-là lui donner de vrais droits. En tant qu'animal et animal de libre.
Oui, mais alors si vous voulez, à la Renaissance, il aurait fallu commencer par donner un certain nombre de droits aux hommes avant d'envisager d'en donner aux animaux. C'est-à-dire que la question du droit humain est déjà en soi, quand même loin de l'état où on est aujourd'hui. Vous voyez, il y a une...
Montesquieu...
Oui, mais ça, c'est nettement plus tard, quand même.
Oui, c'est plus tard, mais...
Je crois que ce n'est pas dans ces termes-là qu'il se pose la question, en fait, hein, tout simplement. Ce n'est pas en termes de droit. Ce n'est pas une question de droit de l'individu, si vous voulez.
Pascal Duris, vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle et plus particulièrement du naturaliste suédois Carl von Linné. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, les humains étaient encore assujettis à une représentation scalaire du vivant ?
Oui, oui, absolument. D'ailleurs, vous en avez déjà une illustration sous les yeux. Bonjour, donc, puisque vous avez sous les yeux cette fameuse échelle des êtres dont il est question déjà depuis un petit moment. Donc, vous voyez que mon échelle, à moi, est une véritable échelle avec deux montants, des barreaux qu'on gravit les uns après les autres pour arriver au sommet de cette échelle, si le vertige ne vous prend pas. Et vous voyez, enfin, vous me faites confiance, parce que je pense que vous ne voyez pas, mais tout à fait en haut, c'est l'homme, donc, qui est évidemment au sommet de cette échelle des êtres. Alors, la question qu'on m'avait imposé de traiter ce soir, c'était de savoir si l'homme est un animal et quelle était la réponse du XVIIIe siècle. Je vais tâcher d'y répondre. Je vous préviens, ce sera une réponse de Normand. Pour les uns, ce sera oui, pour les autres, ce sera non. Mais en réalité, après avoir écouté ce que vous a dit à l'instant Violaine Giacomotto, je vais plutôt décaler un peu la question et vous dire ce qui reste de cette zoologie dont il vient d'être question au XVIIIe siècle. Et pour tout dire, il en reste beaucoup. La première chose importante, aussi bien pour l'époque qu'a évoquée Violaine le XVIe que pour celle que nous évoquons maintenant le XVIIIe, c'est le contexte religieux. Il ne faut jamais perdre de vue que tout ce qu'on est en train de dire, en tout cas pour nos deux interventions ici, est déterminé par une vision religieuse du monde dans laquelle, en particulier, la Bible joue un rôle absolument déterminant. Pour les auteurs, alors je vais utiliser des termes génériques ou généraux ou vagues peut-être, les auteurs, les penseurs, alors on peut mettre derrière les philosophes, les naturalistes, pour peu qu'on puisse distinguer les uns des autres. Pour la plupart donc des auteurs du XVIIIe siècle, la Bible est un ouvrage de science. Pour ceux qui s'intéressent à des questions de classification, de réflexion du type de celle que nous avons ce soir, la Bible est un ouvrage de science, c'est-à-dire que les astronomes, les géologues, les botanistes, les zoologistes, lorsqu'ils se posent des questions sur la nature, ils trouvent des réponses dans cet ouvrage. Et les réponses qu'ils y trouvent leur conviennent parfaitement. Et la plupart d'entre eux, on évoquait à la seconde notre ami Linné, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail, la plupart d'entre eux, de ces auteurs, donc les questions qu'ils se posent n'ont de sens que si on y trouve les réponses finalement dans la Bible. Et que nous dit la Bible ? La Bible dit que, Genèse chapitre 1, récit de la création, le monde a été créé en 6 jours, 6 jours de 24 heures. Troisième jour, on commence par créer les plantes. Il n'en sera plus question après. Que sont devenues les plantes au moment du déluge? Personne n'en sait rien, à part l'olivier. Ensuite, le cinquième jour, ont été créés les animaux aquatiques, marins, les poissons, et puis ensuite les oiseaux. Et puis le sixième jour, les bêtes qui marchent sur la terre ferme, et en dernier lieu, Adam, l'homme. Et pour Ève, les choses sont déjà un peu plus compliquées, pas vraiment claires, mais enfin, en gros, le sixième jour, tout le monde a été créé par Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu distinctement les uns des autres. On a des gravures de cette époque, enfin, pas de cette époque, non, des gravures du 17e ou du 18e siècle qui nous rendent compte de cette création en 6 jours. Et avec, pour légende, Dieu tire du néant le ciel et la terre et en 6 jours l'embellit des créatures de toute espèce. Et quelle que soit la traduction de la Bible en français que vous utilisez, vous avez toujours cette idée que c'est quelle que soit son espèce. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'auteurs, du type de Linné, la création divine a été le fait de créer distinctement les espèces les unes des autres. Au fond, Dieu a mené à bien une œuvre discontinuiste. Et Linné, qui va classer donc au XVIIIe siècle l'ensemble des espèces animales, végétales, dans des beaux tableaux qui vont faire sa célébrité, Linné est absolument convaincu qu'il existe toujours des petites caractéristiques morphologiques qui permettent de distinguer les espèces les unes des autres. Et en dernier lieu, puisque c'est quand même la question qui nous taraude ce soir, en dernier lieu, qui va peut-être pouvoir permettre de distinguer l'espèce humaine des autres espèces animales. Donc, le cadre général, c'est celui-là. Toujours, ne jamais perdre de vue cette affaire-là. La Bible est un ouvrage de science. Le monde a été créé en 6 jours de 24 heures, les espèces distinctement les unes des autres. Le déluge, le paradis terrestre, tout ça, ce sont des récits vrais, d'une vérité absolue qui ne viendrait à l'esprit de personne de contester. Deuxième corollaire de tout cela, cette création, elle a eu lieu quand ? Elle a eu lieu il y a 6000 ans. L'âge de la Terre, pour un auteur du XVIIIe siècle, c'est 6000 ans. Bon, il y a des calculs extrêmement précis, donc pour que vous repartiez avec des informations un peu précises, sachez que le monde a été créé en 4004 avant notre ère, au mois d'octobre, le 23 exactement, c'était un dimanche, à 9h du matin. Et ça veut dire que pour un auteur du XVIIIe siècle, si le monde a été créé en 4004 et comme lui, il est du XVIIIe siècle, ben grosso modo, la création a bien eu lieu 6000 ans auparavant. Cet âge ne sera pas contesté jusque dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Alors voilà le cadre général. Alors, dès lors que vous adoptez cette vision religieuse du monde, et très peu d'auteurs parviennent à s'en libérer, parfois ça peut être un petit peu embarrassant quand même pour leur vie quotidienne s'ils défendent un discours contraire. Pour tous ces auteurs-là, il y a à ce moment-là deux visions pour étudier ou réfléchir sur la place de l'homme parmi les animaux ou au contraire à côté des animaux. Il y a un point de vue que je viens d'évoquer, qu'on va détailler un tout petit peu plus peut-être, le point de vue discontinuiste, donc ça qui s'accroche à cette idée que Dieu a bel et bien, Dieu est gentil en fait dans cette affaire, il a, comment dire, anticipé l'idée que des naturalistes auraient au cours du XVIIIe siècle la tâche de classer les différentes espèces animales végétales. Et comme Dieu est sympathique, il a par anticipation prévu que chaque espèce offrirait à l'œil de ce naturaliste des petites caractéristiques morphologiques que vous et moi sommes incapables de distinguer, mais que quelqu'un comme Linné, lui, est tout à fait capable de distinguer, ce qui veut dire qu'il y a des hiatus, des vides entre les espèces. Et à nous autres, où des espèces nous paraissent absolument identiques les unes avec les autres, on se dit, quelle différence chez les singes, par exemple, ou ailleurs. En réalité, Dieu a bien dissimulé, en les créant dans chacune de ces espèces, des petites différences morphologiques. Alors ça, c'est le point de vue de Linné. Alors Linné, il a des excuses de penser ça, puisqu'il se croit investi d'une mission divine, il se croit choisi par Dieu pour mener à bien son travail de classification. D'ailleurs, ses contemporains l'appellent le second Adam. Il accepte d'ailleurs, ça ne lui pose pas de problème. Ce qui fait que l'histoire de la zoologie ou des sciences naturelles, pour lui, est simple. Il y a Dieu, il y a Adam et lui. Voilà. Ce qui raccourcit considérablement l'histoire. Et Linné, fort de cette conviction qu'au fond, le monde est compréhensible parce qu'il a été créé par un être parfait, d'une certaine manière, que sa création est parfaite. Alors il va, pendant toute son existence, il est né en 1707, il meurt en 1778, la même année qu'en France, Rousseau, que Voltaire, etc. Linné va donc mener à bien un travail d'inventaire dans lequel il va faire quoi ? Il va, si on se concentre que sur le seul règne animal, à vrai dire, sa célébrité, il la doit plutôt à sa classification des plantes, mais pour ce qui nous intéresse ce soir, concentrons-nous sur le règne animal. Il va, par exemple, distinguer dans l'ensemble du règne animal 6 grandes classes. Passons rapidement sur 5 d'entre elles pour ne retenir que la première de ces 6 classes, je dirais par ordre d'étude, qui est la classe qu'il appelle la classe des quadrupèdes. Et dans cette classe des quadrupèdes, il la subdivise en certain nombre d'ordres, ce qui est bien normal, et le premier de ces ordres. Donc vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire la première classe de sa classification zoologique et le premier ordre qu'il appelle l'ordre des anthropomorphes, cet ordre, il le subdivise en 3 ensembles, 3 genres, hein, pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers de la classification. Et le premier de ces genres, c'est le genre homo, le genre humain. Ça veut dire que pour Linné, investi d'une mission divine, le second Adam, etc., n'empêche que pour lui, l'homme est un animal exactement comme les autres. Alors, bien sûr, c'est le premier des animaux. Il est à la première place, c'est le premier genre de la première classe de son premier ordre et la première classe de son système. Mais n'empêche que pour Linné, tout profondément croyant qu'il soit, tout avec une vision religieuse du monde qu'il est, il pense que l'homme est un animal. Alors, il le pense et en même temps, il a une petite réticence de dernière minute. Il utilise, Linné, des critères principalement morphologiques, la dentition, les poils, les pattes, etc. Pour ce qui est de l'espèce humaine, il hésite à utiliser des critères exclusivement morphologiques. Et il résume un peu sa pensée d'une formule célèbre dans la philosophie, empruntée à Socrate, « Connais-toi toi-même, nosce te ipsum ». C'est-à-dire qu'au moment ultime où il doit dire finalement à son lecteur naturaliste, qui aimerait bien, s'il était un peu distrait, savoir comment reconnaître un être humain lorsqu'il se promène dans la campagne, après tout, il lui donne des critères pour reconnaître les scarabées, donc pourquoi pas, à ce moment-là, Linné, lui, est extrêmement prudent et sent bien que s'il donne des caractéristiques exclusivement morphologique, comme il va le faire des deux autres genres, qui sont le genre singe et le genre paresseux. Vous voyez ce que ça veut dire pour Linné en 1735, puisque c'est la première édition de cet ouvrage que j'évoque, le Systema Naturae. En 1735, pour Linné, profondément croyant, l'homme est un animal à 4 pattes, un quadrupède, au même titre que le singe et que le paresseux. vous devinez que pour un certain nombre de ses contemporains, la chose va tout de même assez mal passer. Linné, Chloé le rappelait à la seconde, est un naturaliste suédois. Nous sommes au XVIIIe siècle. Les Lumières sévissent également en Suède, mais il faut bien dire que, pour tous les spécialistes de la question, les Lumières suédoises sont un peu plus ternes que les Lumières françaises. N'empêche qu'en France, l'idée développée par Linné, le fait qu'il fasse à l'homme ce traitement assez particulier de le considérer comme un animal à quatre pattes, comme le singe et comme le paresseux, va susciter véritablement l'indignation des grandes figures des Lumières françaises. La Mettrie, qui traite Linné de l'homme-cheval, Voltaire, qui est un peu entre deux eaux et qui répond à la Mettrie en disant « Oui, c'est vrai, mais enfin, quel beau cheval que Linné !» Diderot, qui, lui, s'étouffe de rage en constatant que ce naturaliste là-bas qui vit dans les brumes septentrionales fait de l'homme un animal, etc. etc. Et puis, vous avez en France une autre figure qui, elle aussi, s'indigne de cette place, c'est la grande figure des sciences naturelles européennes, comme Linné, c'est Buffon. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, il est né la même année que Linné, en 1707, et puis il meurt 10 ans plus tard, en 1788. Et Buffon, ça ne passe pas non plus pour lui, cette place que fait Linné à l'homme. Et ça ne passe pas, pourquoi? Parce que Buffon, il est le partisan d'une deuxième manière de voir le monde, qui est celle de la continuité, d'une nature continue. Nature continue, d'une nature pleine, avec un discours qui prend les mêmes sources que les partisans de la discontinuité. On a dit tout à l'heure, ils sont discontinuistes parce que Dieu a créé distinctement les espèces. Les continuistes disent, Dieu a créé les espèces distinctement, d'accord, mais il en a créé autant que possible. Et en réalité, à chaque fois que vous pensez distinguer deux espèces, comme le fait ce diable de Linné, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'espèce qui permettrait de faire la jonction. Et c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, on rencontre plein de créatures dites intermédiaires qui posent des problèmes sans nom aux naturalistes. Pensez au corail, pensez au polype, à l'hydre d'eau douce, etc. Tout un tas d'organismes qui brouillent complètement les cadres de la classification. Et Buffon, qui n'est pas croyant, lui, pour le coup, mais j'irais au nom de ce point de vue continuiste, eh bien, dit non, on ne peut pas débiter la nature comme le fait Linné. Et donc, Buffon adhère à cette fameuse échelle des êtres que vous avez ici. Cette représentation date de 1745. Elle est proposée par un naturaliste bien moins connu que tous ceux que nous évoquons là, qui s'appelle Charles Bonnet, naturaliste suisse. C'est lui qui travaille. Alors, il a un titre de gloire absolument passionnant. Il est découvreur de la parthénogenèse du puceron. Bon. Et puis, il a aussi travaillé donc sur ce fameux polype à bras, ou hydre d'eau douce, qui est vert et qui vit dans l'eau. Donc, si c'est vert, c'est que c'est un végétal. Manque de chance, il se déplace sur le bocal. Donc, du coup, ça doit être un animal. Pire encore, si on le coupe en deux, chaque partie régénère un ou une hydre entière. Du coup, où est passée l'âme du polype? Donc, les problèmes métaphysiques qui préoccupent les naturalistes de cette époque. Donc Buffon est un des grands représentants, avec un grand nombre d'autres auteurs au XVIIIe siècle, de ce point de vue continuiste qui adhère à une échelle des êtres. Une échelle des êtres, vous voyez ici, enfin, donc j'ai compris que vous ne le voyez pas, mais enfin, qui se termine avec l'homme, mais qui, dans d'autres images, toujours de la main de Charles Bonnet, va au-delà. On a d'autres représentations sous la forme d'un escalier, du type un petit peu de celui qu'on a vu tout à l'heure, du XIIIe, XIVe siècle. Un escalier au sommet duquel se tient bien droit, campé sur ses deux jambes, l'homme, mais sa tête est dans les nuages, ce qui signifie que finalement cette échelle des êtres ne s'arrête pas avec l'homme, mais que l'homme lui-même n'est qu'une transition vers où ? Ben, vers Dieu, puisque dans les siècles précédents, on nous l'avait déjà montré. Donc vous voyez, au XVIIIe siècle, cette question-là de la manière dont on pense la classification se pose avec ces deux points de vue, un point de vue discontinuiste à la Linné et Linné, tout discontinuiste qu'il soit, considère que l'homme est un animal, et du coup, suspense, et Buffon. Eh bien, Buffon, qui est athée, matérialiste, qui est continuiste, on se dit, celui-là, bah, il ne va pas avoir davantage de soucis. Bah, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que pour lui, la nature est pleine, il n'y a pas d'hiatus, vision d'Aristote, hein, déjà dans l'Antiquité. Mais Buffon, au moment ultime où il doit discourir sur l'homme, il dit quand même, bon, l'homme, c'est quand même autre chose. On ne peut pas le considérer comme un vulgaire quadrupède, comme le fait Linné. Et du coup, donc, Buffon va considérer que l'homme doit constituer, à lui tout seul, un genre ou un règne, enfin, ce que vous voulez, mais enfin, quelque chose de très distinct. C'est-à-dire que lui, si profondément continuiste, comme ils le sont très nombreux au XVIIIe siècle, eh bien, au moment ultime où il doit réfléchir sur la place de l'homme dans le règne animal, bah là, il instaure une discontinuité. Vous voyez, les deux points de vue qui coexistent au XVIIIe siècle, hein, entre d'un côté Linné, dont on aurait pu attendre finalement par ses convictions religieuses qui mettent l'homme à part, puisque l'homme a fait l'objet d'une création particulière, le sixième jour, eh bien pas du tout. Et Buffon, lui, athée, matérialiste, etc., eh bien, au contraire, lui ménage une place à part. Et puis, il y a la question des singes. Ah, la question des singes, vous l'avez deviné, Linné, bah, il considère évidemment le singe comme un animal, bien sûr, mais et il instaure une véritable discontinuité, malgré tout, Linné, puisqu'il classe toutes les espèces. Donc il n'y a pas de figure, véritablement, de transition hein, entre les singes et l'homme. Et pour ce qui est du fond, qui, lui, pour le coup, est un grand spécialiste des singes, eh bien là, à l'intérieur de ce vaste ensemble des singes, il faut bien dire qu'au XVIIIe, on appelle de ce terme générique presque un grand nombre d'espèces qui sont aujourd'hui très différentes les unes des autres pour nous, à l'intérieur de ce vaste ensemble des singes, alors Buffon tient son même discours très continuiste en disant « Oui, mais là, on pense distinguer telle ou telle espèce les unes des autres, mais en réalité, on vient de trouver à Bornéo, à Sumatra, telle autre espèce qui manifestement fait la jonction. » Enfin bref, on retrouve notre Buffon bien continuiste, mais justement, au moment ultime où il aborde la question, par exemple, des orangs-outans, qui, pour les observateurs de l'époque, est à la fois le dernier des singes et le premier des hommes. Vous voyez, c'est une formule qu'on trouve hein, sous la plume de certains naturalistes de ce XVIIIe siècle. Alors là, prudence, prudence, parce que à partir de quand se termine véritablement l'orang-outan ? Et à partir de quand commence véritablement l'homme, d'autant que, à en croire les voyageurs du XVIIIe siècle, certains orang-outans mâles se comportent un peu de manière un peu assidue avec certaines femmes humaines. Oui, enfin, hottentot, nègre, c'est pas bien grave, dit Buffon. Bon, on est noir, mais enfin, c'est pas une couleur essentiel au sens philosophique du terme. Si on transporte nos nègres, nos hottentotes au nord, en Hollande, d'ici un siècle ou deux, ils seront lavés. Il n'y a pas de... Je reprends, bien sûr, hein, les propos de Buffon. Mais voyez ici, il y a aussi, de sa part, une profonde réflexion. Parce qu'à force d'être continuiste, comme il l'est, lui et plein d'autres à son époque, à force d'être partisan de cette échelle des êtres, finalement, à un moment, vous passait insensiblement des singes à l'espèce humaine. Et là, halte là, dit Buffon, non. Il y a une grande différence entre le singe et l'homme, c'est la présence de l'âme. En définitive, il dit à certains endroits dans ses textes, Buffon, il est l'auteur d'une œuvre monumentale qui commence à apparaître en 1749, il dit à un moment comme cela que finalement, ce qui distingue l'homme du singe, c'est véritablement la présence de son âme, la présence aussi sans doute un peu de son langage, et puis surtout, dit-il, un homme peut imiter un singe, on a dit ça un peu d'une certaine manière tout à l'heure, tandis qu'un singe ne peut pas imiter un homme, n'en a pas même l'idée. Voilà, et c'est ça pour lui la grande différence. Hein. Voilà comment se structurent un petit peu ces débats autour de cette question de l'homme est-il oui ou non un animal. Donc vous voyez qu'il y a toutes les réponses possibles. Hein. C'est ça que lorsqu'on regarde dans le détail, et vous l'avez deviné avec nos différentes interventions, c'est qu'il y a absolument toute la palette de nuances, etc. On ne peut pas répondre, lorsqu'on pose des questions comme ça, brutalement, c'est oui, c'est non, non. Et surtout, vous voyez que derrière tout cela, les explications qui nous paraîtraient les plus évidentes, les plus simples, en réalité, ne correspondent pas à ce qui se passe dans les faits. Et que là, dans le cas présent, sur des questions comme ça, les philosophes des Lumières, sous-entendu françaises, quand on dit les Lumières, sur ces questions-là, se montrent bizarrement un peu plus frileux que des gens comme Linné, dont on aurait pu croire qu'eux, au contraire, étaient tout à fait convaincus que l'homme devait avoir une place à part. Alors, il y aurait évidemment, on pourrait évoquer le cas de Rousseau, qui pense que les singes sont des hommes sauvages, malgré tout, encore dans l'état de nature, en témoigne leur mœurs dépravées. Par parenthèse, il faut bien voir aussi qu'au XVIIIe siècle, tous les discours qu'on est en train d'évoquer ici justifient ou non, mais tout l'esclavagisme et le colonialisme, etc. Et vous devinez que tout devient possible à partir des discours que nous sommes en train d'évoquer. Et puis, ouf, heureusement, en 1817, petite incursion rapide pour terminer, dans les premières années du 19e siècle, un grand anthropologue français qui s'appelle Viré, Julien Joseph, fait une étude extrêmement précise de l'anatomie, enfin s'inspire de travaux qui ont été faits un petit peu avant lui, sur l'anatomie notamment du larynx des singes. Et là, on s'aperçoit qu'il aurait impossible de parler comme le ferait l'être humain. Et on voit dans une publication qu'il écrit dans un article, et à un moment, il y a une phrase qui est soulignée, « L'homme seul parle ». Et on sent un soulagement terrible. Mais vous savez aussi que le 19e siècle, juste je termine avec ce 19e siècle, vous savez aussi qu'au 19e siècle, ça va être l'époque où on va brutalement distinguer, alors cette fois-ci non plus tellement, quoique le singe de l'homme, mais au sein même du genre humain. Alors là, des races, on va les distinguer, on va les classer, on va les hiérarchiser. Ce que faisait un petit peu Linné, hein, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il distingue au sein du genre humain, ou ce qu'il appelle 3-4 variétés, parfois espèces, bon, etc. Il ne faut pas faire dire à Linné au XVIIIe siècle plus qu'il n'en dit. Il n'avait pas, je pense, d'idée qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de raciste. Par contre, au XIXe siècle, alors là, oui, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, là, on va rencontrer des théoriciens du racisme qui savent parfaitement ce qu'ils disent et qui entendent parfaitement justifier leur point de vue sur toutes ces questions.